Arthur Géa remporte le BNC Tennis Open 2026. Le joueur métropolitain s'est imposé hier soir au bout de la nuit sur l'Autrichien Rodionov. Une évolution du dispositif de sécurisation à Saint-Louis. Il n'y a plus de poste de garde aux deux verrous de la RP1. Les gendarmes sont désormais en patrouille mobile pour continuer à veiller à la sécurité des automobilistes. Sébastien Lecornu met la pression sur ceux qui rêveraient de voir son gouvernement disparaître. En cas de censure, il y aura une nouvelle dissolution de l'Assemblée avec à la clé de nouvelles élections législatives. La révolte du peuple iranien se poursuit. Le fils du Shah d'Iran appelle désormais les manifestants à se préparer à prendre les centres-villes. En Australie, les incendies de forêt continuent de ravager plusieurs régions de l'état du Victoria. Sur place, la situation est hors de contrôle et pire que la terrible saison des feux 2019-2020. Et puis le sport avec le football et le coup d'envoi des 16e de finale de la Coupe de France. La logique a été respectée ce matin. Le point sur les résultats à la fin de ce journal. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce journal à la une de l'actualité du sport et le clap de fin sur le BNC Tennis Open. Les internationaux de Nouvelle-Calédonie ont livré donc leur verdict hier soir sur les courts du Wentworth et c'est un Français qui l'a emporté, Arthur Géa, qui a signé à Nouméa sa première victoire en carrière sur un challenger, Michael Juneski.
Quelques jours après son 21e anniversaire, Arthur Géa s'est offert la plus belle fête de sa jeune carrière, largement chouchouté par le public calédonien. Il faut dire que cette finale contre l'Autrichien Yuris Rodionov nous aura emmené au bout du suspense dans la soirée. Temps de match 2h38. La rencontre a surtout été interrompue durant près de 3 heures en raison de la pluie à Nouméa. Le scénario avait idéalement commencé avec un Français flamboyant qui gagnait le premier set en une demi-heure. Réussite à la clé sur le maximum de points décisifs, 6-3. Puis, dans le deuxième acte, Rodionov a rappelé que ne rentre pas dans le top 200 mondial qui veut, en appuyant sur l'accélérateur. Géa a juste eu le temps de se reprendre pour une remontada avant que la pluie ne renvoie les joueurs hors du court à 5-4 en faveur de Rodionov. Finalement, après 21h cette fois, le match a repris pour voir Rodionov gagner le deuxième set, 6-4. Mais pour achever la rencontre, Arthur Géa a bien rendu ce que le public calédonien lui apportait en s'imposant 7 jeux à 5, un ultime set solide, un dernier smash pour conclure la partie.
C'est clair que c'était très dur avant le match, mais bon, tout le travail qui a été fait pendant la prépa, il paye, il n'y avait pas de pression avant. C'était dur, c'était pas facile parce qu'on a failli reprendre plus tôt, mais bon, ça fait partie du jeu, ça m'est arrivé plusieurs fois, des fois dans le mauvais sens, donc maintenant j'ai appris et j'arrive mieux à le gérer.
Un petit mot sur le public calédonien ici.
Bah incroyable, tout le monde était derrière moi, c'était fou.
Tu reviendras ?
Oui.
Voilà, une finale qui a achevé une belle quinzaine pour le tennis en Calédonie. Stéphane Crétois est le superviseur de l'ATP qui était sur le territoire à l'occasion de ce BNC Tennis Open.
Il y a une émulation énorme de tout Nouméa pour faire vivre et avancer ce tournoi. Donc non, les choses sont assez simples, elles sont même belles. Et oui, on a pris un peu de pluie, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Le côté humain du tournoi est très, très, très important et vraiment prédominant. Et donc, les organisateurs, tous les bénévoles peuvent être fiers de ce qu'ils produisent ici. Parce que non seulement c'est professionnel, mais en plus, c'est très, très amical. Donc, je crois que les joueurs sont vraiment attachés à ça. C'est pour ça qu'ils reviennent aussi.
Je vous le disais, le public calédonien est venu nombreux assister à cette finale sur le court Juan Arwen Godrella et Arthur Géa a particulièrement apprécié sa rencontre avec les fans de tennis du territoire, notamment les plus jeunes comme Gaspard, licencié du club du receiving, qui aura gagné de belles émotions mais qui va y perdre quelques cheveux.
J'ai hébergé Arthur pendant l'exhibition du Catherine Bonnet au receiving et donc on a fait un petit pari avant le challenger. Et puis s'il gagnait le challenger, il me rasait la tête. Et puis il a gagné le challenger, il va me raser la tête du coup.
Plus de cheveux, mais content d'avoir vu le joueur que tu hébergeais remporter ce tournoi avec tout le public qui soutenait.
Ah oui, c'est sûr, de toute façon j'étais pour lui. Hein. Enfin, même s'il me rasait les cheveux, j'étais pour lui dans tous les cas.
Et en attendant qu'il s'improvise coiffeur d'un jour en Calédonie, c'est la première victoire en carrière d'Arthur Géa sur un challenger. Il est devenu le 5e français à s'imposer en simple dans l'histoire des internationaux de Nouméa, 2 ans après Arthur Cazaux, mais aussi aussi après Adrian Manarino, trois fois lauréat, Vincent Milo, Jérémy Chardy ou encore Gilles Simon, deux fois vainqueur au début des années 2000. Ce succès lui permettra surtout d'intégrer le top 200 mondial en début de semaine prochaine. Et surtout, tout comme son adversaire Youris Rodionov, il sera engagé dans le tableau qualificatif de Melbourne pour l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison.
Le Haut-Commissariat apporte des précisions sur l'évolution du dispositif de sécurité mis en place à Saint-Louis. Il n'y a pas d'allègement. Les objectifs d'ordre public et les effectifs déployés restent inchangés, précisent les services de l'État en Calédonie. La municipalité du Mont-d'Or a en effet indiqué que cette évolution des moyens déployés sur place était effective depuis hier. Les postes de garde physique étaient installés depuis les émeutes de mai 2024 au verrou nord et sud de la RP1 ont été retirés. Les gendarmes restent toutefois déployés sur des patrouilles mobiles aux abords de la tribu de Saint-Louis. L'objectif est aussi d'interpeller rapidement les auteurs éventuels de troubles à l'ordre public. Ces adaptations du dispositif opérationnel ont été validées par le haut-commissaire. La décision a été prise en concertation avec la municipalité du Mont-d'Or et les gendarmes. Ce redéploiement des forces de l'ordre dans un secteur sensible a suscité des réactions. Le parti Génération Mont-d'Or a fait part par voie de communiqué de sa désapprobation vis-à-vis de cette décision. Rappelant que dans la nuit de vendredi à samedi, de nouveaux faits de caillassage sur des gendarmes avaient été constatés. Nina Juillet pour Génération Mont-d'Or déclare encore, et je cite, « Dans l'attente d'un apaisement réel et de garanties concrètes pour les automobilistes, nous demandons que les verrous soient remis en place. » Fin de citation. Au chapitre des faits divers, cette tentative de cambriolage, ça s'est passé dans une habitation à Point-d'Imier dans la nuit de vendredi à samedi aux alentours d'une heure du matin. Le résident a été surpris par des bruits et a découvert des individus entrés par effraction dans son domicile. Ils ont pris la fuite et ont utilisé du gaz lacrymogène à l'encontre de propriétaires des lieux qui tentaient de les stopper. Si vous pensiez passer votre week-end au soleil à faire bronzette, c'est foutu. Le temps n'est pas terrible depuis hier et ça va se poursuivre. Écoutez Lionel Divoul, il est prévisionniste au Centre Météo France de Nouméa.
On conserve un temps qui reste chaud, humide, instable, avec des averses potentiellement orageuses qui se déclenchent essentiellement sur la façade est, ainsi qu'aux pointes nord et sud de la Grande Terre et dans une moindre mesure au Loyauté. En ce qui concerne la côte ouest, elle bénéficie d'un temps qui sera généralement plus sec, voire même de quelques éclaircies. Pour la semaine prochaine, il y a effectivement de fortes chances qu'une dépression se dirige vers le nord de la Grande Terre, mais pour l'instant, ça reste en suspens et je préfère ne pas m'étendre dessus.
Des propos recueillis par Caline de Boisco et Météo Complète avec Thierry tout à l'heure à la fin de ce journal. À Farino, la place de la mairie accueille aujourd'hui le premier marché de mamie de l'année. Les visiteurs trouveront évidemment sur place dès 8h des produits locaux dans une ambiance forcément conviviale. Les précisions de Ghislaine Arly, responsable du marché de mamie.
Il y aura les produits de saison, bien sûr. Ce marché sera sous le signe des vacances. Et des flamboyants qui sont encore en fleurs, donc il fait bon flâner, venir de ce côté-là où il fait frais, parce qu'il fait très chaud ailleurs. Donc à Farino, on a la chance d'avoir vraiment un microclimat. Donc venir prendre le frais et puis se promener, éventuellement passer déjeuner avec nous, puisqu'on a un petit coin food court, où on peut donc goûter aux plats qui sont préparés par nos restaurateurs, les plats du pays généralement, des plats bien calédoniens. Et surtout à un prix très compétitif, donc des plats s'il y a des enfants et tout, donc ça fait pas cher de venir casser la croûte au marché de Farino. Et puis alors au niveau des produits, il nous reste beaucoup de mangue en ce moment, il y a de la pastèque même, des ananas, beaucoup d'ananas. Et puis les produits habituels, on a toujours nos produits transformés locaux avec les confitures, les hachards, les sirops. Et puis après, toute une gamme de produits vivriers, de l'artisanat, on a un petit coin artisanat qui se réétoffe doucement.
Et le premier marché de mamie de l'année 2026, c'est donc de 8h à midi sur la place de la mairie à Farino. Et puis à Dimbéa, notez que le parc Fayard accueille depuis 6h et jusqu'à midi un marché de producteurs, mais aussi un vide-grenier. Il est 7h10, on va marquer une première pause dans ce journal. À suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Lionel Sabot.
Et en métropole, Sébastien Lecornu met la pression sur ceux qui rêveraient de voir son gouvernement disparaître. En cas de censure, le Premier ministre et le Président de la République ont convenu d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, avec évidemment à la clé de nouvelles élections législatives qui auraient lieu en même temps que les élections municipales les 15 et 22 mars prochains. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
C'est un ultime coup de poker tenté par Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, menacé de dissoudre l'Assemblée nationale si le Premier ministre est renversé. Mais en réalité, Emmanuel Macron veut tout faire pour ne pas en arriver là, même si la menace est bien réelle, car deux sujets risquent de faire chuter Sébastien Lecornu. Le premier, c'est le Mercosur. Le Rassemblement national et la France insoumise ont annoncé avoir déposé une motion de censure contre Sébastien Lecornu. Si les socialistes décident de soutenir ces motions, alors le Premier ministre sera renversé. Le deuxième, c'est le budget. Sébastien Lecornu devrait déclencher le 49-3 dans les jours à venir, avec en réponse une nouvelle motion de censure des oppositions. Là encore, les socialistes feront pencher la balance. Et pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé avec Olivier Faure. Mais le Parti Socialiste, en grande difficulté dans les sondages, devrait voter contre ces motions de censure.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 y a noté que dans une interview, nos confrères du Parisien Sébastien Lecornu indiquent qu'une motion de censure enverra un signal dramatique. Le Premier ministre qui précise qu'il ne veut pas de la censure et encore moins d'une dissolution. Les médecins libéraux en colère en métropole, ils l'ont fait savoir ces dernières heures dans les rues de Paris. Manifestation dans la capitale avec en ligne de mire certaines mesures d'économie prévues dans le budget de la sécurité sociale. Les médecins parlent même d'une dérive autoritaire qui menace, selon eux, leur liberté d'exercice. Mathis Lang pour Europe 1.
Depuis la place du Panthéon, des milliers de blouses blanches s'élancent. Parmi elles, Aza, elle tient dans ses mains une pancarte.
Sans médecin, pas de soins et la sécu ne sert à rien.
La chirurgienne obstétricienne a du mal à contenir sa colère.
On fait que travailler, payer des taxes d'enfer et on est traité comment ? Comme des délinquants qui pillons la sécu. Non mais ça va pas, non ?
L'un des principaux reproches formulés sur la loi de financement de la sécu, une mesure visant à limiter les prescriptions médicales. Mokhtaria Alikada est présidente de Médecins pour Demain.
Les médecins n'ont rien à faire dans cette loi. On les accuse de surprescrire alors que les prescriptions, elles viennent de ce que la population est plus vieille, plus malade. Donc les dépenses de santé augmentent, on n'est pas responsable.
Des mesures qui inquiètent la jeune génération, très représentée dans le cortège. Jean-Élie, 25 ans, est interne en cardiologie.
On est rempli de doutes, on s'interroge tous sur notre devenir, alors qu'on est les principaux moteurs des gens. Quoi. Si les gens n'ont plus la santé, le pays ne fonctionne pas. On vit ça un peu comme un abandon.
Le jeune homme prévoit demain de rejoindre Bruxelles pour un exil symbolique visant à démontrer les conséquences d'une fuite des médecins à l'étranger.
Mathis Long dans la manifestation parisienne pour Europe. L'actualité internationale est dominée par la révolte du peuple iranien. Le fils du chat appelle désormais les manifestants à se préparer à prendre les centres-villes. Donald Trump, lui, réitère ses menaces à l'endroit du régime du Mollah.
L'Iran a de gros ennuis. Il me semble que les gens prennent le contrôle de certaines villes que personne ne pensait vraiment possible il y a quelques semaines à peine. Nous surveillons la situation très attentivement. J'ai déclaré très fermement que s'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait dans le passé, nous nous impliquerons, nous les frapperons très fort, là où ça fait mal. Et ça ne veut pas dire des bottes sur le terrain, mais ça veut dire les frapper très très fort, là où ça fait mal.
Donald Trump qui ne perd pas de vue non plus le Groenland. Le président américain réaffirme que toutes les options sont sur la table en vue de prendre le contrôle de l'immense territoire arctique. Une question de sécurité nationale, indique le président des États-Unis, qui n'exclut toujours pas une possible intervention au Groenland. Alexandre de Villers pour Europe 1.
Pour Donald Trump, il y a deux solutions. Nous allons faire quelque chose sur le Groenland, qu'il le veuille ou non. Je voudrais conclure un accord de la manière douce.
Mais si nous ne le faisons pas de la manière douce, nous le ferons de la manière forte.
La manière forte, comprendre, contraindre par la force s'il le faut le Groenland et l'UE à lâcher prise. Alors évidemment, le scénario d'une intervention militaire n'est pas à l'ordre du jour. Mais le président américain use de sa rhétorique belliqueuse habituelle désormais comme d'un élément de pression supplémentaire pour ensuite ouvrir les négociations. Reste que pour l'instant, ce dernier fait face à un mur. Du côté du Groenland d'abord, les partis politiques ont répondu à Donald Trump avec un message clair. Nous ne voulons pas être américains. L'avenir du Groenland doit être décidé par le peuple groenlandais. 85% des habitants du territoire arctique rejettent d'ailleurs l'idée d'un rapprochement avec les États-Unis. Quant aux Européens, ils affichent pour l'instant un front uni, commun face aux intimidations américaines et rejettent les arguments de Donald Trump concernant les menaces russes et chinoises au Groenland. La première ministre danoise Mette Frederiksen demande de nouveau aux États-Unis de mettre fin à leurs menaces.
Alexandre De Villers du Service international d'Europe. En Australie, des incendies continuent de ravager plusieurs régions de l'État du Victoria. Et sur place, la situation est hors de contrôle et pire que la terrible saison des feux 2019-2020 qui avait ravagé plusieurs millions d'hectares de végétation et fait 33 morts. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
La première ministre du Victoria, Jacinta Allan, a indiqué en conférence de presse que 300 000 hectares de végétation, de même que 130 bâtiments, dont des dizaines de maisons, ont déjà été la proie des flammes. Il ne reste pratiquement rien de certains petits villages où la dévastation est totale. Des troupeaux de bovins, des terres cultivées et des vignobles ont été fortement touchés, voire détruits, tandis que 10 000 hectares de plantations de pins ont été carbonisés. Face à la gravité du désastre, l'armée va être mise à contribution. Le directeur de la police du Victoria, le commissaire Mark Bush, a confirmé quant à lui que les trois personnes dont on était sans nouvelles depuis avoir été aperçues vivantes pour la dernière fois devant leur maison ont été retrouvées saines et sauves. Leur habitation, comme beaucoup d'autres, a toutefois été détruite. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 7h et pratiquement 19 minutes. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, nous revenons au sport et nous parlerons également météo.
Jusqu'au 6 février, gagnez un séjour enchanteur à l'hôtel Coulnoué Village. Logez 5 nuits en bungalow premium avec vue mer, petit déjeuner et buffet du soir pour 2 personnes. Profitez de la mer, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez chance au 40-20. L'hôtel Coulnoué Village vous accueille toute l'année dans un cadre idyllique en face de la poule de Yengen. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 6 février à 14h, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive, c'est la suite de votre journal. On retrouve Lionel Sabot.
Oui, retour au sport. Nous avons évoqué, rappelons le début de ce journal, la victoire du français Arthur Géa sur le BNC Tennis Open hier soir à Nouméa. Il a signé un succès de référence à tout juste 21 ans en battant l'Autrichien Rodionov, 195e mondial au terme de 3-7, 6-3, 4-6 et 7-5. Le public est venu nombreux pour soutenir le métropolitain dans cette finale sur les courts de Nouméa. Venons-en au sport sur la scène nationale et internationale. Michael Juneski, on va commencer avec du football et les 16e de finale de la Coupe de France.
Et c'est passé pour l'AS Monaco. Aujourd'hui, les Monégasques qui retrouvaient le club d'Orléans, évoluant en national, succès de Monaco 3-1. Dans un duel de club de Ligue 1, Toulouse a battu Angers au tirs au but. Un but partout à l'issue de la prolongation. Reims aussi a dû aller jusqu'au tirs au but pour s'imposer sur la modeste équipe du Puy, 0-0 en fin de partie. Pour le reste, la logique a été respectée entre Amiens et Montreuil. Succès d'Amiens 4-2. 3 a éliminé Bastia 2-0. Lorient a battu les Hauts-Lyonnais 3-1. Un carton encore de Strasbourg contre les Normands d'Avranches 6-0. Enfin, Laval l'a emporté à Istres 2-0.
La modeste équipe du Puy. Mais que faites-vous des lentilles, mon pauvre Mickaël ? Du football encore avec le dernier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, c'est en ce moment même l'Égypte de Mohamed Salah qui est opposée à la Côte d'Ivoire, tenante du titre. Et le score est de 3-1 en faveur des Égyptiens après 58 minutes de jeu. Le Nigeria, de son côté, a battu l'Algérie sur le score sans appel de 2-0. Un match qui s'est terminé par des échauffourées en tribune et sur la pelouse. Forte tension après l'élimination de l'équipe de Lucas Zidane. Et oui, l'Algérie ne rejoindra donc pas le Maroc en demi-finale. Les Marocains, on le rappelle, ont battu hier les Camerounais 2-0. On rappellera également que le Sénégal s'est aussi qualifié pour le dernier carré après son succès sur le Mali 1-0.
Allez, 1-2-3, on passe au rugby. La troisième journée de la Champions Cup, les clubs français sont en difficulté en ce début de week-end.
Oui, au lendemain de la défaite de Castres à domicile contre les Anglais de Bath 43-20. Aujourd'hui, c'est l'AS Clermont également sur sa pelouse qui n'a rien pu faire contre Glasgow 33-21, une défaite des Auvergnats. Ils n'ont plus de chance de sortir des phases de poule. Grande déception pour Kylian Tixeron, troisième ligne de l'ASM.
On voit ce que c'est le haut niveau international. On a mis 40 minutes à se mettre dans le match. En seconde mi-temps, on a su réaccélérer un petit peu, mais on n'a pas su assez profiter de leur infériorité numérique. Donc c'était compliqué, on a fait trop de fautes en seconde mi-temps. Donc là, on le paye cash, on sait ce que c'est à ce niveau-là. Chaque erreur se paye double, donc voilà, c'est frustrant.
Mauvaise fortune donc pour les clubs français depuis le début du week-end. Le Stade Rochelais s'est incliné de peu sur le terrain de Leinster, 25-24. Les Anglais qui ont inscrit une pénalité à la toute dernière seconde de la rencontre. En ce moment même, Bayonne se déplace sur le terrain de Leinster et la section paloise est sur les terres des Scarlets gallois. À suivre encore demain les matchs de l'Union Bordeaux-Bègle contre Northampton, un remake de la dernière finale de cette Champions Cup. Toulon accueillera le Munster et Toulouse ira défier les Saracens.
On passe au sport d'hiver. En biathlon, les Françaises remportent leur relais de l'étape de Coupe du Monde à Oberhof en Allemagne.
Les Bleus qui décrochent leur deuxième victoire de la saison sur le circuit mondial et marquent pour la première sélection de Julia Simon dans ce relais depuis son retour de suspension. Sur les terres allemandes, les tricolores ont en effet écrasé l'épreuve avec également Lou Jean Monod, Océane Michelon et Justine Brezaz-Boucher. Les Françaises qui ont devancé la Norvège et l'Allemagne avec déjà un parfum de JO d'hiver dans un coin de la tête. Et puis en ski alpin chez les messieurs, Léo Angno a lui réussi à terminer troisième du géant d'Adelboden. C'est en Suisse, son deuxième podium en carrière sur une étape de Coupe du Monde. C'est le Suisse Marco Odermatt, leader de la Coupe du Monde, qui a remporté l'épreuve.
Allez Mickaël, on termine avec du sport en Calédonie. Il y avait de l'haltérophilie hier avec la Coupe de Dimbéa.
Oui, première compétition de l'année pour la discipline. Dès le mois de janvier, 26 athlètes en lice à l'AL Michel Castex. Décor sur mesure pour cet événement qui permettait de lancer 2026 sur un bon rythme. On comptait notamment une quinzaine d'engagés chez les jeunes, entre les moins de 10 ans, moins de 13 ans, juniors. Certains ont en effet déjà des objectifs en vue, comme Mathis Sacco. Il est champion de France junior chez les plus de 110 kilos.
Ça permet de garder la forme surtout. Et surtout que là, on prépare un stage la semaine prochaine à Samoa. Ça permet de voir notre niveau avant d'y aller, quoi. Et de voir notre niveau après le stage. On prépare déjà le championnat des Océaniens. Et aussi, pour moi, peut-être les championnats de France encore. J'espère, si jamais je fais du bon travail, faire les championnats d'Europe.
Et côté résultat, on signalera la victoire chez les 10-13 ans de Noah Iwan comme Sinaï Alahigani. Chez les filles, en junior, succès de Melissa Ortosi comme Mathis Sacco que vous venez d'entendre. En senior, ce sont les favoris qui l'ont emporté, Demi Dama et Sylvain Duclos.
Allez, on termine ce journal avec la météo.
Socafor Peinture vous présente la météo. Socafor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socafor Peinture, c'est à Ducos.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous, Thierry.
Oui, Lionel, nous sommes en vigilance jaune. Alors, de fortes pluies et des orages, comme vous l'avez annoncé, sur l'ensemble du territoire, pour des averses parfois fortes, voire orageuses. Elles circuleront sur l'est et les Loyautés, elles déborderont ensuite sur la côte ouest. Alors, c'est pour cet après-midi et pour ce soir. D'accord. On va y avoir pour ce matin déjà. Oui. Le temps restera humide, instable et souvent nuageux, avec des averses parfois fortes, voire orageuses. Ce sera sur l'est principalement. Sur l'ouest, des éclaircies se produiront et les averses resteront rares. Alors, le vent orienté allait souvent compris entre 10 et 15 nœuds, sauf sur la pointe nord où il reste proche des 20 nœuds. Et des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds. Quelques accélérations sur l'ouest sont possibles en sortie de vallée. Cet après-midi, le temps se dégrade à nouveau avec des averses qui prendront un caractère orageux sur l'est, le relief et la côte ouest principalement. L'alizée orientée à l'est pour cet après-midi, il se maintient autour des 10 à 15 nœuds, sauf sur la pointe nord où il sera compris entre 15 et 20 nœuds. Les températures, elles, comprises en général entre 28 et 30 degrés. Et localement, 31 à 32 degrés. Et ce sera sur l'ouest, Lionel.
Et merci beaucoup, Thierry. C'est la fin de ce journal. Il est 7h26. Merci de l'avoir suivi. Il sera disponible. On réécoute d'ici quelques minutes sur notre site internet. C'est le www.rrb.nc. Excellent dimanche. Belle matinée en musique.
Oui, monsieur.